La journée mondiale de la propriété intellectuelle. Tu connais cette journée créée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, on l'appelle l'OMPI. Elle a lieu tous les ans, le 26 avril, et ce depuis l'an 2000. Son objectif ? Sensibiliser le grand public sur l'impact des brevets, du droit d'auteur, des marques sur la vie quotidienne. Cette journée, elle sert aussi à célébrer la créativité et la contribution des créateurs et des innovateurs de tout poil au développement des sociétés à travers le monde. Le 26 avril, il n'a pas été choisi au hasard, nous signale Ygrin dans son billet disponible sur le digitalpourtous.fr. C'est la date à laquelle la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle est entrée en vigueur. C'était en 1970. Alors qu'est-ce que c'est que la propriété intellectuelle ? Nous interroge Ygrin. La propriété intellectuelle, c'est le domaine qui comporte l'ensemble des droits exclusifs accordés sur des créations intellectuelles. Elle comporte plusieurs branches. La propriété littéraire et artistique, le droit voisin, la propriété industrielle. On va descendre un peu ce que c'est la propriété littéraire et artistique. Elle s'applique aux œuvres de l'esprit et elle est composée du droit d'auteur, comme par exemple les auteurs, les graphistes ou les photographes. Le droit voisin, il constitue une partie particulière du droit d'auteur. Il rémunère les personnes physiques et morales qui ont participé à la création de l'œuvre sans en être l'auteur. Ce sont les artistes-interprètes par exemple, ou le droit de production de vidéogrammes ou de bases de données. La propriété industrielle, elle, regroupe d'une part les créations utilitaires comme le brevet d'invention et le certificat d'obtention végétale ou, au contraire, un droit de production sui generis. C'est ce qui qualifie une situation juridique particulière qui nécessite la création de textes spécifiques. Ça concerne aussi des obtentions végétales et d'autre part les signes distinctifs, notamment la marque commerciale. On y trouve également le nom de domaine et l'application d'origine. Ça, c'est la propriété industrielle. Dans le domaine de la propriété intellectuelle, c'est l'œuvre résultante et sa forme qui sont protégées. En aucun cas, les idées et les informations qui en sont à l'origine. Celles-ci restent libres de droit. Oui, par exemple, résumer un texte ou citer un titre dans une bibliographie ne protège pas le droit d'auteur dans son œuvre. Alors, qu'est-ce que c'est que les chiffres ? Quelques grands chiffres autour de la propriété intellectuelle. Ygrin nous apprend que les chiffres mondiaux sont parus en février 2021 sur le site de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. On y découvre que les demandes internationales de brevets ont augmenté de 4% en 2020 pour atteindre les 275 900 brevets, avec 68 720 demandes, soit une augmentation de 16,1% annuelle. C'est la Chine, d'ailleurs, qui a fait le plus de demandes suivies des États-Unis à plus 3%. Ce rapport, il nous dit également que ce sont les technologies informatiques qui ont représenté la majorité des demandes publiées. Selon le PCT, c'est le nom du traité de coopération en matière de brevets, ça représente 9,2% des demandes totales. Et puis viennent ensuite les communications numériques, puis les techniques médicales. Et en France, me diras-tu ? Et en France, d'après l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, le fameux INPI, 106 115 marques ont été déposées en 2020 et la hausse est de 7,2% en un an. Côté brevet, la situation est nettement moins bonne puisqu'elle chute de 9,5% pour atteindre 14 309. En 2020 aura également vu une progression de 3,7% pour les dessins et modèles. Les fameux dessins et modèles pour 5903 dessins et modèles déposés. Comme promis, Ygrin te parle aussi un petit peu du droit d'auteur. Il s'agit de l'ensemble des droits dont dispose un auteur ou ses ayants droit. Les ayants droit, ce sont les héritiers, par exemple, ou les sociétés de production. Voilà, c'est tout cet ensemble de droits dont dispose un auteur ou ses ayants droit sur les œuvres de l'esprit original. Sont également concernés les droits corrélatifs du public à l'utilisation et à la réutilisation des œuvres sous certaines conditions. C'est une construction, elle est juridique, elle est philosophique et elle est politique. Elle est née en Europe avec le développement de l'imprimerie et l'institutionnalisation de l'édition. Son sens et sa portée ont beaucoup évolué depuis, notamment avec le développement du numérique. Globalement, c'est composé de deux types de droits. Le droit moral, d'un côté, et les droits patrimoniaux. Le droit moral, il reconnaît notamment à l'auteur la paternité de l'œuvre et le respect de son intégrité. Dans certains pays, dont la France, il est même perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Les droits patrimoniaux, quant à eux, ils confèrent un monopole d'exploitation économique sur l'œuvre. La durée est variable selon les cas et les pays. À la fin de ce temps, l'œuvre rentre dans le domaine public. Eh oui, le domaine public important, ça. Imagine que tu crées ton site internet. tu vas peut-être faire appel à un prestataire externe. Par exemple, un ou une graphiste pour faire ton logo, un auteur ou une autrice ou même un photographe. Sur le contrat avec cette entreprise ou cette personne, oui, il y a beaucoup de personnes en freelance dans ces domaines, tu devras être très clair sur la cession de droit, sa durée ou sa zone géographique par exemple. Fais bien attention parce que tout ce que tu n'auras pas désigné dans cette cession de droit sera présumé comme non cédé. L'entreprise devra sur sa facture différencier le prix de sa prestation du prix de la cession de droit. La cession de droit gratuite, elle est extrêmement encadré d'ailleurs. Pour aller plus loin, eh ben Ingrid t'a mis dans les notes de bas de page de cet article dont tu pourras retrouver le lien dans les notes d'épisode de ce podcast, un exemplaire de cession de droit pour le cas où. Et ça peut faire beaucoup, beaucoup de bien et gagner beaucoup, beaucoup de temps. N'oublie pas d'ailleurs que si tu fais travailler une freelanceuse ou un freelanceur, tu deviens un diffuseur. Et à ce titre, tu dois te déclarer à l'AGESA ou à la Maison des Artistes selon son métier. Le graphiste, l'auteur, ouais, l'AGESA, ouais, en tant que diffuseur, à toi le bonheur de la déclaration d'URSSAF trimestrielle. Ne la zappe pas, même si c'est très tentant, mais non, ne la zappe pas, parce que c'est par cette déclaration que tu donnes accès à cette personne au droit à la retraite, à la sécurité sociale ou à la formation. Tu es content d'en profiter, toi, dans ton entreprise ? Alors donne-lui le même droit. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Je te laisse. J'ai rendez-vous avec celles et ceux qui sont en direct sur YouTube, sur Twitter et sur Twitch et avec notre amie Ingrid qui nous fait le plaisir d'être disponible en live. C'est un vrai plaisir. À tout de suite. Merci à toi. Ciao.